7h, 9h, plus près de toi.
Alors on sort du week-end, on s'est un peu amusé ou pas, on a fait du vélo, puis on a regardé le monde qui continuait. On a senti, on a vécu encore un week-end sous les bombes. Les hommes, les femmes qui tombent, les fous, les cris, l'impuissance qui nous saisit. La distance, l'histoire et la géographie. Le jour, la nuit et toutes les autres nuits. Les mains qui glissent sous les draps, qui cherchent les autres doigts. Pour se tenir, pour être ensemble. Il faut vivre sa vie. Passer entre les gouttes de l'histoire et du temps. La honte d'être soi, heureux parfois. Avoir des projets, des idées pour l'été, des choses à louer. Comme on a raison. Comme on a raison de s'accrocher. Comme on a raison de continuer. De se réveiller, les yeux englués, le bonheur à portée. Demain, salut. Bonjour, bon lundi.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Des miaou, des wawa, des cotes, cotes, cotes.
Tous les animaux de la ferme sont là.
Il paraît qu'ils font leur pain eux-mêmes.
7h, 9h.
Édouard Baer.
Alors, bonjour. Je crois, Marie Bonisseau, bonjour.
Bonjour.
Vous acceptez de présenter le journal pendant que Thierry Paret est en examen?
Bah, je ne savais pas où il était. Donc,
en examen. En examen, histoire de chaussettes qui seraient fait offrir par une autre rédaction.
Je comprends.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé?
Eh bien, l'état d'urgence est décrété pour 3 mois en Égypte après les attentats revendiqués par l'État islamique hier. Attentats contre 2 églises coptes à Tanta et Alexandrie. Attaques qui ont fait 44 morts au total en plein dimanche des rameaux, qui marque le début de la semaine sainte pour les chrétiens. Les coptes orthodoxes d'Égypte représentent la plus grosse communauté chrétienne du Moyen-Orient. Ils ont été ciblés par des kamikazes égyptiens, d'après Daesh. En Guyane, finalement, pas de blocage total face à l'opposition d'une partie de la population. Le collectif à l'origine du mouvement pour la Guyane décollée renonce à durcir les barrages. Piétons, vélos, scooters peuvent toujours circuler. Hier, la ministre des Outre-mer, Erika Barreit, a promis plusieurs millions d'euros d'aide en plus et réclamé la fin de ce mouvement qui dure depuis presque 3 semaines. L'économie guyanaise ne peut être fragilisée plus longtemps, a déclaré la ministre. La campagne présidentielle, il reste 2 semaines et pour marquer le coup, Mélenchon a choisi Marseille. Comme il y a 5 ans, le candidat de la France insoumise a réuni 70 000 personnes sur la Canebière hier après-midi. Thème du jour, la paix. Avant le grand retour de son fameux hologramme en plus fort, plus puissant, le 18 avril prochain, on n'aura pas un, pas deux, mais 7 Mélenchon en même temps. Est-ce que ça va lui permettre de doubler François Fillon dans les sondages? Ils sont pour l'instant au coude à coude. Et pour l'heure, François Fillon demande à ses électeurs non pas de l'aimer, mais de le soutenir. Extrait du discours à la porte de Versailles hier devant 25 000 personnes. Quant à Marine Le Pen, elle s'est proposée, elle, de réécrire l'histoire hier. La France n'est pas responsable de la rafle du Vel'd'Hiv, a expliqué la candidate du Front National. La rafle du Vel'd'Hiv, je rappelle que c'était en 1942 à Paris. La police française a arrêté 13 000 juifs qui seront ensuite déportés. S'il y a des responsables, c'est ceux qui étaient au pouvoir à l'époque, estime Marine Le Pen, provoquant, on s'en doute, l'indignation sur les réseaux sociaux.
En revanche,
hier soir,
elle a dit que Marignan, c'était la France. C'était pas les gens qui étaient à l'époque.
Bon,
1515,
ouais.
Non, ça c'est nous.
Ok. Donc indignation à droite, à gauche et au CRIF qui condamne des propos, je cite, dans la tradition vichyste et collaborationniste de Jean-Marie Le Pen. En football, le PSG met une belle pilule à Guingamp, 4-0. Les Parisiens restent à 3 points derrière le leader Monaco au classement de Ligue 1. Les autres résultats de la journée d'hier, c'est nul. 0-0 entre Marseille et Toulouse, 1 partout Saint-Etienne-Guingamp. Et puis un mot tout de même d'Andrea Guardini, cycliste italien qui participait à la course Paris-Roubaix hier. Il s'est retrouvé à pédaler sur l'autoroute A23 après avoir abandonné la course. Il semble que ce coureur ait voulu prendre un raccourci pour éviter les célèbres pavés du Paris-Roubaix. En échange, il a pu donc tester la bande d'arrêt d'urgence, puis le commissariat de Villeneuve-d'Ascq.
Ouais, vous n'êtes pas en train de vous moquer?
Absolument pas. J'explique que c'est compliqué parfois de s'orienter sur le pavé.
Je comprends. Christophe Ménez, vous faites partie de la France soumise. Ce sont des gens qui ont envie d'être manipulés, d'être esclavagisés et d'avaler un petit peu tout ce qu'on leur donne à manger.
Complètement, c'est beaucoup plus reposant,
oui.
Je trouve.
Alors pourquoi vous n'avez pas fondé un parti? Ce serait formidable, la France soumise. Oh bon, d'accord.
Oui.
Le slogan, c'est « Oh bon, oui, bon,
bah, parce qu'on n'a pas trouvé de leader.
C'est ça le plus... Alors par exemple, on va augmenter vos impôts.
Bah oui.
Avec une claque.
Bah écoutez, avec plaisir.
Bah voilà.
Pourquoi c'est... pas.
Mais ça fait plaisir à
mais évidemment.
À tout de suite, à ta yo-yo.
7h-9h, plus près de toi.
7h-9h, Edouard Baer.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Je trouve tout ça d'une vulgarité épouvantable. Ça me débecte.
Qu'est-ce qui se passe?
Bah c'est la chanson de Camille.
Ah oui, oui, c'est très bien.
Pardon. Fontaine de nuit.
Bah bien sûr, fontaine de lui.
Fontaine de nuit.
Ah, je crois pas du tout, c'est fontaine de lui.
Oui, ouais. Fontaine de lui.
Oui, oui, fontaine de lui.
Est-ce qu'on
fontaine
peut vérifier l'information?
Non, je vous assure, parce que pendant que vous étiez là le week-end à grimper aux arbres, moi je lisais.
Alors, merci
Non, vous savez, c'est ce que disait Daniel Émile Faure, qui était de vieille famille juive. Il disait vos ancêtres grimpaient encore aux arbres, que les miens lisaient déjà le Talmud. Voilà. Alors le club des Côte-d'Oiseurs,
le Tour de Paris, de cette
Daniel Émile Faure, qui était un physique très spécial. Oui. Ils ont passé le week-end à s'informer pour vous pendant que vous faisiez du pédalo, pendant que vous étiez en train de patiner dans forêt de Chevreuse,
et de grimper aux arbres,
pendant que vous étiez en train de planter des tulipes ou de la marijuana dans vos jardins français. Ils étaient là à lire la presse pour vous en sortir la substantifique moelle. C'est le club des Côte-d'Oiseurs avec Christophe Méné. Oui. Christophe Méné, bachelier. Oui. Vous êtes allé jusqu'au bac, Christophe?
Non.
Alors juste avant, je cherche vos diplômes.
Bien avant.
Presque bachelier, Christophe Méné. Qu'est-ce que vous avez vu, Christophe?
Alors voilà, moi ce week-end, je suis allé en Normandie, je suis allé voir l'arrière-grand-mère de ma femme qui a 100 ans. Et je suis tombé ce matin dans Le Monde sur un article qui est titré « 10 grands-mamies, tu me racontes une histoire ». Voilà, c'est sur les arrière-grand-mères.
C'est
voilà.
Ça, c'est la présence de plus en plus maintenant dans les familles d'une quatrième génération.
Exactement, donc, comme on vit plus longtemps. Mais
grâce à vous. Et donc on voyait bien le rôle des grands-parents, raconter l'histoire familiale, raconter des contes et les gens, le lien entre l'enfance et le passé, et les arrière-grands-parents, quel est leur rôle alors?
Voilà, bah je...
Il n'a pas lu vraiment.
Je n'avais pas lu l'article.
Il a lu le titre.
Non, parce que ce qui s'est passé, c'est que c'est dans le supplément du Monde, et ce matin j'ai cherché, j'avais le Monde, donc il marquait, mais il n'y avait pas le supplément. Avec...
Bon, Dominique Régnier, lire le titre, c'est déjà bien, non?
C'est déjà très très bien. Donc, c'est une information qui reste sociologiquement très pertinente. Voilà.
Ça laisse le champ ouvert. Au lieu de fermer le truc, d'asséner vos vérités, vous laissez la porte ouverte à l'imaginaire. Je vous remercie de cette presque information.
Écoutez, je vous en prie.
Atmen Khelif, prince albigeois, débarqué à Paris avec ses valises et ses rêves, enfant du Conservatoire National d'Art Dramatique.
Tout à fait.
Il est aujourd'hui à la tête d'un empire de presse qui est coincé. Vous achetez le journal au moins une fois par mois?
Au moins.
Qu'est-ce que vous avez vu ce matin?
Eh bien, le déchet le plus jeté au monde, c'est quoi?
Le déchet le plus jeté au monde,
oui.
Qu'est-ce que vous pensez?
Il y en a 30 milliards en France.
Qu'est-ce que vous pensez les uns les autres?
Bouteilles plastiques.
Pot de yaourt.
Pot de banane.
Des déchets extérieurs au corps.
Oh, extérieurs au corps. Évidemment.
Ouh là là, ça dérape.
Non. Je dérape pas, j'essaie.
Kleenex, oui, mais... Kleenex, non?
Non.
Les mégots.
Les mégots, voilà.
Les mégots.
30 milliards en France par an, c'est beaucoup.
30 milliards de mégots?
30 milliards de mégots, c'est beaucoup. Hein.
Oh, ça fait 1000 mégots par tête de pipe.
À l'initiative d'une Strasbourgeoise qui s'appelle Mathilde Boudard, elle a créé...
Comment elle s'appelle?
Mathilde Boudard.
Ça sera vérifié.
Il faut marquer, il faut noter. Hein, Mathilde Boudard, elle a un Facebook, j'imagine. Voilà. Alors, elle a inventé...
La fille d'Alphonse Boudard?
Peut-être.
Ouais, continuez.
Voilà. C'est un interrogatoire ou c'est...
Bah oui. Vous pensez pas que je vais être aimable, non?
Il manque la lampe, un sandwich et une bière.
Non, mais tu parles de Mathilde Boudard, on a quand même un peu envie de savoir qui c'est.
Alors, Madame Boudard, elle a inventé un cendrier sondeur. C'est-à-dire, c'est un cendrier où il y a une question, un sondage. Préférez-vous voyager dans le passé ou le futur? Et les gens mettent des mégots. Et au tas de mégots, après, elles comptent. Il y a même des gens dans la rue qui les ramassent pour voter.
Oui. J'ai pas compris, vous avez compris?
Moi j'ai compris, oui. Oui,
oui elle met dans la rue d'un espèce
on vote
de...
avec son mégot.
Ah, on vote avec son mégot.
Ce qui incite à le recycler.
À le recycler. Il y a même des gens qui les ramassent dans la rue. Il y a plein de petites questions. Préférez-vous Jon Snow ou Bob l'éponge?
Préférez-vous l'avenir ou le passé? C'est-à-dire arrêter de fumer. C'est-à-dire si vous voulez avoir un avenir.
Vous l'avez vu comme ça.
Oui, c'est ça que j'avais
ça va plus loin.
Ce qui est amusant, Atmen, c'est que le premier sondage qui a été fait en France en 1938 portait sur voulez-vous arrêter de fumer? Il y a un lien entre sondage et mégot depuis le début. En fait.
Et elle veut bien cette théorie de conspiration. Je sais que vous êtes payé par de très très grands fabricants
et pour finir,
cigarettiers qui vous paient des week-ends à la Baule et au Havre.
Et pour finir juste, elle veut sonder ça avec des hommes politiques. Préférez-vous Mélenchon ou Fillon? Et
ben, alors combien de mégots pour Fillon?
On ne sait pas encore.
D'accord.
Mais plutôt des cigares, je crois.
Je crois que vous êtes dans la France soumise. Vous êtes dans la France soumise.
Soumise des nuits.
Marie
Lissé.
Déjà, j'ai envie de vous dire bonjour.
Bonjour, Edouard. On parle de Fillon. J'ai lu un article très drôle dans le journal du Dimanche.
Vous êtes diplômée, Marie Misset ?
J'ai un petit diplôme, oui.
Non, il n'y a pas de petit diplôme, il n'y a que de sottes gens.
Eh bien,
Molière, non ?
Il y a aussi des sots gens avec des grands diplômes.
C'était quoi votre diplôme ?
Je suis diplômée de communication, figurez-vous.
Tiens, on va vérifier. Eugénie, vous appelez à quelle école ?
CELSA.
Au CELSA, si c'est appeler. Bien, je crois. Hein. C'est bien, on va les appeler.
Madame Boudard, c'est la directrice.
Madame Boudard. Qu'est-ce que vous avez vu ce matin, Marie ?
Alors, cet article que j'ai lu hier en terrasse, donc du JDD, où Fillon était à Clermont-Ferrand, et l'article est très drôle. Donc, on raconte que pour une fois, il a le temps de manger, qu'il s'est jeté sur le pâté, il s'est jeté sur le fromage. Là, tout d'un coup, il y a Gérard Larcher qui a dit « On va se prendre un coup de rouge, il faut qu'on se dégraisse les dents. »
Il y a une chiracisation de la campagne
voilà,
Fillon,
tout d'un coup.
Il accepte d'aller dans le vin et la bouffe.
Et alors, Brice Hortefeux était ravi parce qu'il distribuait le fromage aux journalistes que le candidat était en train d'ignorer. Et il a dit « J'ai longtemps cherché mon utilité dans cette campagne. Voilà, c'est fait. Je suis l'homme qui distribue le fromage. »
Et donc, c'est l'ami des Auvergnats, Brice Hortefeux.
C'est
normal. C'est du pseudo.
Très bien.
Et donc voilà, c'était une très bonne journée pour François Fillon à Clermont-Ferrand. Une journée sans nuages, comprendre une journée presque sans casserole, sans enfarinage.
C'est une belle métaphore, météo. On se sert souvent de la météo pour parler de l'humeur intime, l'humeur sociale. Et quand il pleut sur quelqu'un, c'est pas. Oui, d'accord.
Il était assez ridicule avec sa farine.
Il pleure dans mon cœur. Mais quelle est cette langueur ? C'est du Verlaine, Christophe.
Et c'est ça qui a permis aux Anglais de débarquer, les Américains.
Verlaine ?
C'était quoi, le code ?
Le code, c'était « Il pleut sur mon cœur de langueur monotone », là, ce que vous
avez dit. Mais tout ça est d'une richesse culturelle ! Mais attendez, il faut dégraisser, on va mettre un tout petit peu de musique ou de pub. C'est trop.
C'était le code de l'opération Overlord, ce que vous dites.
Alors, on est chez soi, on se réveille. Et voilà. Tout de suite, messieurs.
Un enfaridage, tout de suite.
7h, 9h, plus près de toi.
De 7h à 9h, j'écoute plus près de toi.
Plus près de toi ?
On comprend pas tout, mais c'est bien.
Dominique Reynier, bonjour.
Bonjour, Edouard Barre.
Dominique, il y a eu le grand meeting là, de Fillon dimanche, où il a déclaré « Je ne vous demande pas de m'aimer ». Il y a les débats télévisés, il y a Internet, et il y a encore cette rencontre physique avec ses supporters ou avec ses potentiels électeurs. C'est quoi exactement ces meetings ? Est-ce que ça compte vraiment dans la campagne ?
Oui, et puis le grand meeting de Jean-Luc Mélenchon.
Et aussi, le grand meeting de Mélenchon avec les hologrammes, oui.
Voilà, deux grands meetings impressionnants. Ça compte beaucoup. D'abord, c'est une énorme logistique. C'est beaucoup d'argent aussi. Donc, c'est plutôt le propre des candidats qui pèsent, qui ont des moyens. Donc là, il y a deux catégories. Il y a ceux qui peuvent faire des meetings et les autres. Simplement, c'est un fait. Ça mobilise évidemment les militants, les sympathisants. Ça, c'est un premier élément. Mais il y a aussi une question de visibilité, mettre en visibilité, faire voir le soutien, l'énergie, la puissance du mouvement. Et là, il y a quelque chose d'intéressant parce que ça existe depuis un siècle, ces meetings à peu près. La presse les rapportait, faisait des reportages, puis des reportages photos. Puis on a eu un peu de télévision, on a eu des extraits à la télévision pendant les journaux, quelques reportages aussi. Mais il y a un grand changement maintenant qui est que c'est diffusé sur Facebook. Par les candidats sur leur compte et puis par les chaînes d'information continue. Et donc, on a maintenant des meetings qui potentiellement sont suivis par des centaines, voire des millions de personnes, ce qui est tout à fait nouveau.
C'est en Facebook Live, vous voulez dire qu'on peut suivre en direct ?
Absolument, plus les chaînes d'information continue. Et donc, on arrive à des audiences qui sont tout à fait inédites, avec du coup un enjeu pour les meetings qui est absolument essentiel. Mais une petite remarque qui a son importance, les chaînes d'information continue n'ont pas les moyens de produire la diffusion de ces meetings. Et donc, qu'est-ce qu'elles font ? Elles diffusent les images produites par les candidats.
C'est eux qui leur envoient, les caméras des équipes.
Absolument.
Qui envoient aux chaînes.
Et la régie,
les caméras.
Etc.
Ah oui. Et le montage, s'il y a du montage et tout.
Et donc, tout ce qui est, quand vous faites un meeting, vous magnifiez bien sûr le candidat, oui. C'est la moindre des choses. Hein, sans aller jusqu'à l'adulation, vous le mettez en valeur. Et donc, les images qui sont diffusées par les chaînes d'information continue, elles le signalent d'ailleurs en général, images fournies par l'équipe du candidat ou le candidat, eh bien, malgré tout, nous présentent une image qui n'est pas une image journalistique, mais une image militante qui, d'une certaine manière, pendant toute la durée de la retransmission, est un acte de propagande, de manière neutre, je dirais, favorable en tout cas au candidat, parce que les chaînes d'information continue ou les chaînes qui veulent diffuser ces images, comme la chaîne Assemblée nationale ou la chaîne parlementaire Public Sénat, n'ont évidemment pas les moyens, le reconnaissent et le disent, encore une fois, c'est écrit à l'antenne, mais c'est en infographie. Voilà, donc on a cette espèce à la fois de très grande audience, sans précédent, et en même temps, une situation assez étrange où les images militantes prennent la place de l'image journalistique.
Et donc c'est fait vraiment pour la télévision en fait, ces meetings aujourd'hui. C'est pas fait pour galvaniser les troupes elles-mêmes et pour dire j'y étais. Il y a pas ce.
Non, c'est fait pour mettre en scène la présence de militants, de sympathisants convaincus par leurs candidats. Et là, toute la clé est de faire passer ces images qui sont qui au fond concernent une présence réelle. On est venu physiquement à Marseille ou à Paris pour soutenir son candidat. La clé, c'est que ces images là passe dans la télévision, sur Internet, dans la représentation, c'est ça la clé.
Et on voit bien les chiffres aussi, hein, côté combien de divisions, toi, essayer, il a rempli. Oui,
il y a un truc très très malin chez Mélenchon, il y a aussi travailler dans la rue. La rue est plus payante, j'ai l'impression, que le grand meeting Café Fillon à Versailles, parce que dans la rue, les gens passent, il y avait un monde incroyable, en plein soleil, avec des bateaux derrière, avec des calicots, il y avait écrit Mélenchon, en gros, il y avait une énorme mise en scène, et on a l'impression qu'il met un dernier grand coup de kick, là, comme on dit, de campagne, il a vu que les sondages ont un peu augmenté, j'ai l'impression qu'il se sert vraiment de la rue, qui est son terrain, pour vraiment faire monter la chose, non ? Puisque Fillon, ça avait l'air très austère à Versailles, mais tout n'était pas éclairé.
C'est très intéressant, vous avez raison, c'est des traditions politiques différentes. Jean-Luc Mélenchon, c'était une gauche très à gauche. C'est la gauche de la rue, c'est une tradition. Oui, c'est la rue, on investit la rue, on manifeste, Bastille, Nation, voilà, la plage du Prado, tout ça, ce sont des lieux populaires et de présence très, je dirais, représentatifs d'une tradition politique qui est celle de la gauche, la rue. Et puis la location d'une salle, c'est une autre forme de meeting plus classique. Où là, on retrouve davantage la droite. La droite peut aussi investir la rue, la place du Trocadéro, par exemple, ou les grandes manifestations de 1968. Il y a une tradition de droite de la rue, mais quand Mélenchon réunit ses troupes, c'est pour faire référence aux foules révolutionnaires ou aux grandes foules populaires à travers les mouvements sociaux dans l'histoire du monde. Donc ça, c'est très, très, très important pour lui. Et puis en même temps, occuper un espace public, c'est moins cher que louer une salle. Ça compte aussi, ça.
Et ça exprime aussi une colère. On est dans la rue, on est déjà en colère. Il y a déjà le mouvement.
On n'est pas dans le système.
On n'est pas dans les bâtiments. En fait.
Et dites-moi, il y a de l'émotion et des frissons et de gens qui amènent leur gamin. Moi, j'ai jamais été un meeting politique.
C'est un moment.
Il y a des mises en scène un peu que tout s'éteint. Je me rappelle que les meetings de Mitterrand avant 81, il y avait d'abord les seconds couteaux de la gauche qui parlaient, puis tout à coup, tous qui arrivaient par le podium, par la scène. Et voilà, qui commençait à monter, Claude Estier, tous ces gens-là, ont monté un petit peu l'ambiance. Tout à coup, tout s'éteignait. Et Mitterrand n'arrivait pas par la scène, mais par le public, pour montrer qu'il arrivait par le peuple. Et il remontait avec une petite poursuite de lumière sur lui en tenant une rose avec la chanson de Barbara. Regarde, quelque chose a changé. Il y a encore des mises en scène comme ça ?
Ah oui, il y a toujours beaucoup de mises en scène. Toutes les professions du monde artistique, télévisuel et cinématographique sont convoquées pour un meeting. Hein. Sans exception, hein. Les éclairagistes, les photographes, metteurs en scène, les décors, tout est
cracheurs de feu, clowns,
absolument, sans oublier bien sûr les dresseurs d'ours qui sont les plus demandés quand même. Hein. Voilà. Non, mais c'est évidemment un moment qui est très orchestré. Et il y a pour ceux qui partagent évidemment, sinon on est un peu comme un hérétique dans une église. Pour ceux qui partagent la conviction, il y a un moment d'émotion. On se remonte le moral, on repart convaincu que ça va bien se passer. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est très étonnant, que le soir où il y a eu plusieurs meetings comme hier de concurrents, chacun repart avec la conviction que son concurrent va l'emporter, évidemment.
On va gagner. Merci beaucoup, Dominique Régnier. Atmel, je sais que vous allez chauffer quelques salles de candidats très contradictoires.
Je vais chauffer la salle.
Excellent jeu de mots.
Double jeu de mots.
Très, très, c'est très fin, c'est très frais. Merci, Dominique Régnier.
Merci, Norbert.
Ah bon, c'est bon. Puis Alain Souchon. Alain Souchon, une pensée très forte pour l'Égypte ce matin. Marie Bonisseau.
Les grévistes guyanais renoncent au blocage total. Piétons, scooters et vélos peuvent toujours passer les barrages. Hier, la ministre des Outre-mer, Erika Barait, a promis plusieurs millions d'euros d'aide en plus. Réclamer la fin du mouvement de grève qui dure depuis maintenant 3 semaines. À 2 semaines du premier tour de la campagne présidentielle, ça commence officiellement aujourd'hui. Ça veut dire que, concrètement, les médias audiovisuels doivent donner le même temps de parole exact à tous les candidats et leur soutien. Hier, Jean-Luc Mélenchon avait réuni 70 000 personnes à Marseille sur la Canebière. Le candidat candidat de la France Insoumise tente de doubler François Fillon dans les sondages. Et pour ça, il va se dédoubler une nouvelle fois mardi prochain. Meeting en hologramme dans cette ville en même temps. Fillon, lui, la joue plus rationnelle. Il a demandé hier à ses militants non pas de l'aimer, mais de le soutenir lors d'un meeting à la Porte de Versailles à Paris. Quant à Marine Le Pen, elle s'est proposée de réécrire l'histoire. Invitée du grand jury RTL, la candidate du Front National a estimé que la France n'était pas responsable de la rafle du Veldiv. En 1942, à Paris, la police française avait arrêté 13 000 juifs qui seront ensuite déportés. Pour le CRIF, ces propos de Marine Le Pen sont dans la tradition vichiste et collaborationniste de Jean-Marie Le Pen, son père. En Égypte, l'état d'urgence est décrété pour 3 mois après les attentats revendiqués par l'État islamique hier contre 2 églises coptes à Tanta et Alexandrie, attaques qui ont fait 44 morts au total. Les coptes ont été ciblés par des kamikazes égyptiens, d'après Daesh. Et puis en football, le PSG a mis une belle pilule à Guingamp, 4-0. Les Parisiens restent donc deuxième du classement de Ligue 1. Ils sont à 3 points derrière le leader Monaco. Les autres résultats de cette journée de football, c'est nul. 0-0 entre Marseille et Toulouse. Et puis un partout, Saint-Étienne-Nantes.
Alors attention, tout le monde debout. Sur un fond de flamenco de Tito, on va faire un concours de jeux de mots sur des noms d'hommes politiques. On sera je dis un nom d'homme politique, chacun voit son pire jeu de mots et dès qu'il y en a un qui est vraiment lamentable, on passe à l'autre. Ah, Tito, envoyez le son. Envoyez un tac-tac-tac, sans parole. Juste un tac à toi. Attention, Fillon.
Anus.
Non, à cause de Fillon. Oui, d'accord.
Courage, Fillon.
Oui, non, ça va trop loin. Courage, Fillon. Courage, Fillon, c'est un classique, on le prend. Amon.
Je vais voir les choses en amont.
Je joue de l'orgamon.
Marcel Amon.
Je joue de l'orgamon. Vous connaissez pas
Marcel à mon tour.
À mon ami.
Ah oui, gagné. Il est né la Mélenchon qui vient d'arriver. À mon ami. Attention, Mélenchon.
Mélenchon dans le frigo, on aura du fromage.
Pardon. Attends. Pardon, monsieur.
Mélenchon dans le frigo, on aura du fromage.
Mélenchon dans le frigo,
on aura du fromage.
Mélenchon.
Je comprends pas. Mélenchon. Allez, hop, ça c'est dehors. C'est dehors. Tito, la météo, Tito. Mélenchon dans le frigo.
Tout, vous saurez tout sur le zizi, le vrai, le faux, le laid, le beau, le dur, le bouquin, grand ou le gros, tout fut, le petit joufflé, le grand guidé, les montpellés, tout.
Sur la météo, vous saurez tout sur la météo, oui.
Aujourd'hui, il va faire beau sur toute la France, mais c'est pas vrai, parce qu'il fait orage à Clermont-Ferrand, à Lyon et à Strasbourg. Nous fêtons les Saint-Fulbert et les Saint-Fulbertes. Il doit pas y en avoir encore beaucoup, mais il y en a quelques-uns.
Oui, moi,
je le savais. Alors les températures seront à Agen de 9 à 26, à Bordeaux de 9 à 24, à Boulogne-sur-Mer 6 à 11, Clermont-Ferrand 8 à 22, Laval 4 à 14, Marseille 12 à 21, Paris de 5 à 17, Sainte de 8 à 22, et à Saturne il fait moins 690. Tout, vous serez tout sur le zizi, le vrai, le faux, le laid, le beau, le dur, le bouquin, grand coup, le gros touffu, le petit joufflu, le grand ridé, le beau volet. Tout, je vous dirai tout sur le zizi.
Quel est le rapport avec la météo, Tito?
Le zizi?
Oui.
Mais il fait toujours beau.
C'est remarquable, je crois que c'est dans cette chanson qu'il y a cette phrase. J'ai même vu celle d'un Chinois qui cassait des noix. Ça m'a toujours cette phrase de Pierre Perret.
T'imagines?
On salue à tout de suite. Ça va plus, non.
On a l'impression qu'on est dans un aéroport, mais en fait, c'est une entrée de chantier. Oui, c'est une entrée de chantier. Et comme vous le savez, la sécurité est mise en valeur. Vous êtes tout sérieux tout d'un coup? Ben oui, c'est sérieux tout ce que je fais. Ce que je vous ai vu tout à l'heure avec les ouvriers qui rentraient, vous n'étiez pas sérieux. Non, il y a la discipline, il y a un moment pour vous plaisanter, un moment pour être... On peut être sérieux tout en faisant son travail et un peu de... Il faut être cool en même temps aussi, quoi, parce que les employés, les ouvriers, on forme une équipe. Il ne faut pas vous départir d'eux, sinon la chaîne, c'est un maillon qui casse, ça ne va pas. Vous fournissez les cartes d'accès et ils passent par le portail qui contrôle, c'est un portail de sécurité incroyable. Bien sûr, il faut savoir exactement le nombre de personnes qui rentrent dans le chantier à l'instant T et voir leur identité au cas où il y a un problème éventuellement, on ne sait jamais s'il pourrait avoir, n'est-ce pas, un départ d'incendie. Je tiens à vous signaler que je suis SIAP 2, c'est-à-dire agent de sécurité incendie, donc je m'occupe de tout ce qu'il y a comme départ de feu. Alors, s'il y a un départ de feu, il y a un lieu de regroupement, il faut savoir il y a combien de personnes qui étaient dans le bâtiment, dans le chantier.
Bonjour monsieur.
Et quand on... Monsieur, bonjour.
Excusez-moi de vous avoir interrompu. Vous êtes... On est sur quel chantier?
Nous sommes sur le chantier Prado-Morin, Paris 9e.
Oui.
Un chantier à 6 niveaux en toute réhabilitation.
Donc on réhabilite, on ne construit pas. C'est des immeubles qui vont... sont quoi, des immeubles de logement, de bureaux?
C'est des immeubles de bureaux et sont en réhabilitation et voilà, du sous-sol 1 au 6e étage.
Et donc pendant que vous faites votre chantier, monsieur, les gens continuent dans les bureaux à travailler ou pas?
Non, il n'y a personne dans le bureau. Nous sommes en train de tout refaire. Et lorsque le chantier sera livré, en ce moment, les bureaux seront occupés.
Ça serait envisageable, si les travaux étaient très silencieux, de continuer à construire pendant que les gens travaillent sur leur bureau? De dire, tiens, excuse-moi, poussez-vous une seconde que je passe mon câble? Vous pensez que ça serait possible?
J'ai pas compris, en fait.
De mélanger l'activité construction avec le bureau qui continuerait de travailler?
Non, c'est pas possible, parce que ça fera beaucoup de bruit, et puis les gens pourront pas travailler dans la quiétude.
Donc on croise pas du tout, on se croise pas entre corps de métiers différents, vous croisez pas du tout les gens qui vont travailler là?
Non, les ouvriers, les employés, je les croise, hein.
Mais ceux qui sont sur le chantier, mais vous laissez pas, par exemple, dans le béton, votre nom écrit comme il y avait avant, vous laissez pas une petite trace de votre passage? Quand on sera dans un bureau, on verra dans le béton, ici, Marcel a travaillé.
En emploi, non, je pense pas, nous sommes pas dans un, dans les Pyrénées ou dans les montagnes, voilà. On travaille, on laisse les traces. Les traces, c'est exactement le travail bien fait et fini. Voilà, c'est tout ce que je sais. J'ai pas le droit de laisser mon nom un écriteau parce que je suis pas le conducteur des travaux, encore moins le responsable du bâtiment.
Parce que vous savez, parfois dans les vieux bâtiments, dans les vieilles maisons, on retrouve des passages de compagnons qui sont venus au XVIIIe siècle, qui ont signé leur travail parfois.
Ben ouais, vous dites bien, XVIIIe siècle, nous sommes. au troisième millénaire, donc les choses ont évolué, les choses ont changé.
Et dans les Pyrénées, vous voyez quoi pour les Pyrénées? Vous êtes pour les ours dans les Pyrénées?
C'est le lieu d'habitation, donc il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas là-bas. Voilà.
Très bien, je vous remercie beaucoup, monsieur, en tout cas, pour cette prise de position.
Et en face de cette guérite, là, où il y a le portique,
oui.
il y a ce cheval ailé, là.
Ouais, c'est une statue qui me fait penser... à une certaine époque, voilà.
Avec un personnage dessus qui montre une direction.
C'est Pégase.
Il cavale. Le cheval cavale, il est là, il montre la direction. Voilà, c'est un guerrier, j'imagine, je pense. Ouais.
Merci beaucoup.
À
cheval ailé, un ours dans les Pyrénées, des gens qui travaillent dans le même lieu, qui ne se croisent pas, une belle énergie, une sécurité incendie. À tout de suite.
7h-9h, plus près de toi.
7h-9h, Édouard Baer.
Plus près de toi.
Plus près de toi, une émission extrêmement racoleuse.
7h-9h, plus près de toi.
Ah, c'est joli, cette voix dans le souffle. Alors, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé à notre ami Bouchta à Marseille.
Très, trop longtemps.
C'est bien comme c'est une bonne intro. Et après, les gens disent, tiens, mais peut-être qu'on va vraiment lui parler maintenant. Eh bien oui. Bonjour Bouchta.
Bonjour mon petit bonheur du matin.
Ça va mon champion. Comment ça se passe? Comment ça va dans ton quartier à Marseille? Comment tu vas?
Très bien, il y avait le carnaval samedi là.
Le carnaval?
Le carnaval chez vous aussi?
Quel carnaval?
Carnaval de l'école, tous les enfants ils se déguisent.
En quoi?
Il y avait de tout, hein. Ça me faisait rappeler quand j'étais petit. Il y en a une qui est passée, la voisine, une petite blague, là, ils l'ont déguisée à la princesse des neiges, là.
Ah oui, ça continue, la princesse des neiges, on n'en peut plus de là-bas, on en a pris pour 10 ans, là, de la reine des neiges, oui.
Il y avait de tout, il y avait Batman, on dirait les temps pyjama, tu sais, c'est un peu la crise à Marseille. Je sais plus si c'était Batman ou Tripman ou je sais pas, bon bref.
Donc, oui, le gamin reste en pyjama, il dit que c'est Batman, on lui fout une cagoule, une chaussette sur la tête.
Un pyjama de Primark.
Oui.
Bon, bref, écoute, mon beau, on s'en tape du carnaval. Bon, moi, quand j'étais petit, ma mère, elle m'a déguisé en Pierrot, je t'ai pas dit ça.
Non.
Alors, pêcheur, elle avait pas les sous, elle m'a mis vite un sarouel en nylon, là.
Oui.
Un tricot avec des points noirs, la petite calotte du voisin, là. Parce qu'on n'avait pas le chapeau, c'est que Pierrot, il avait une calotte.
Oui, une petite calotte noire.
Voilà,
oui.
Elle m'a dit, un calotte, le chapeau de Pierrot. Elle m'a dit, va au sixième étage chez le juif, il te prête la calotte, j'ai mis la calotte. Et après, je voulais la battre, comment on appelle ça, des ballerines.
Oui.
Alors, j'ai dit à ma mère, il faut les ballerines. Elle m'a dit, ah, non. Ils ont dit Pierrot, ils n'ont pas dit Pierrette. Pierrette, elle met les ballerines.
Pierrette et le potolet. Donc, c'était œcuménique, ton Pierrot. Il y avait à la fois, il y avait un sarouel, ouais. il y avait une kippa, il y avait un mélange de plusieurs cultures.
Oui, mais elle a pas voulu les ballerines. Elle m'a dit, c'est pour Pierrette. Pierrot, ouais. Il monte sur la lune, il lui faut des rangers. Français de ton frère, ferme ta gueule.
Il paraît que tu es allé au meeting de Mélenchon, on m'a dit.
Oui, c'est trop bien. Oui, oh, je te jure, on dirait Abraham qui parle à ses enfants.
C'est-à-dire.
On s'est régalé. Il y avait la Vierge derrière lui et 7000 dépucelés sur le vieux port et la Canebière.
Et il t'a vraiment galvanisé, quoi. Il t'aurait dit de marcher sur les eaux. Enfin, tu avais l'impression que tout était possible.
Je l'aurais suivi jusqu'à Alger-Centre.
Jusqu'à Alger-Centre. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit qui t'a touché?
Eh ben, ce qui m'a plu, franchement. Je te jure, quand il parle, on dirait que c'est moi son secrétaire que je lui dis tous les mots qu'il faut qu'il dise. Je te jure sur ma vie. Eh ben, il y a un moment, il a dit à tous les Marseillais une minute de silence pour tous les naufragés de la Méditerranée qui sont morts pour venir dans le pays de la République et du droit de l'homme. S'il vous plaît, silence. Il y avait un silence, on dirait le jour du Ramadan, une minute avant le repas.
C'est magnifique, ça. Donc, soit des dizaines de milliers de personnes toutes réunies en plein air dans Marseille, en silence, ça devait être beau.
Ouais. En silence, et je te jure, pas de bagarre, pas de cassage de vitrine, tout le monde était gentil, il a dit, tenez-vous les mains, on dirait qu'on était dans une église, dans une mosquée, dans une synagogue, c'est pas où on était tous là. Oh,
ah, c'est magnifique. Beau. Tu as parlé à des gens?
Oui, après j'ai suivi un peu les caméras, je me suis incrusté, j'ai dit, il m'a dit, qu'est-ce que tu veux? Je dis, Radio Nova.
Oh.
L'accréditation.
Tu nous as fait de la pub?
Eh oui, heureusement qu'il y en a un qui écoute Radio Nova. Il m'a dit, c'est toi le vrai Bouchetin? Je dis, oui, regarde sur Internet.
Ah, il y a une personne qui t'a reconnu grâce à nous, on est fiers, on a un...
Bon, c'était magnifique.
Bon, merci beaucoup, Bouchetin. C'était,
voilà, mon poussin.
C'était super.
En tout cas, je vais passer à Canal 5, l'émission ça s'appelle Avec vous, là, je sais pas quoi, là, et je parle de tout, là. Je raconte qu'il faut mettre Fillon au château d'If, il faut le mettre en prison, lui, toute la famille.
Ah bon?
Je raconte un peu de tout, tu verras.
Bon, le pauvre Fillon. Bon, d'accord. Si. Alors, bon.
Voilà, mon poussin. En tous les cas, j'espère qu'il va gagner celui-là. Là.
Qui? Ah, ton Mélenchon. Tu l'aimes, ton Mélenchon.
Oh. Ah, moi, je l'aime bien. Hein.
On t'embrasse très, très fort, Bouchetin.
Allez, les enfants, je vous embrasse très fort et à bientôt.
À bientôt.
Ciao, mon poussin. Ciao.
C'était Bouchetin en direct de Marseille. Et puis, il est arrivé sur le quoi? Non, il est avec nous. Lionel Abelanski, notre ami Lionel. Comment ça, c'est gentil. Comme ça, on a des amis qui passent nous voir parfois. On leur dit, viens, c'est à 7h. Ils disent, oui, 7h du soir, je passe. Et quand ils commencent, c'est 7h du matin. On a moins d'amis qui passent.
Et au bout de quelques mois, ils viennent.
Et puis Lionel, voilà. Parce que vous jouiez au théâtre aussi, c'est pas vos horaires.
Oui, c'est pour ça. Aujourd'hui, c'est tranquille, puisque je relâche.
Le matin, donc vous n'êtes pas... Les acteurs de théâtre, c'est le luxe, c'est de ne pas se lever le matin, quoi.
C'est pas le luxe, c'est que la journée se déplace, donc on se couche plus tard.
Vous êtes en décalage, vous êtes...
L'aube est...
C'est une montée vers la nuit, votre journée, Lionel.
Ouais. Hein.
On va rester avec vous. J'aime bien, c'est une bonne phrase de radio. On reste avec vous tout de suite après ça.
Plus près de toi.
7h, 9h.
Édouard Baird.
Je passe une matinée. Mon Dieu.
Mesdames, messieurs, prenez garde à la poésie.
Un enfant,
un poème.
Mais Ellie, pendant les vacances, tu peux pas aller te balader toute seule, faire des activités. Qu'est-ce qu'on fait quand on est en vacances et qu'on est dans la...
Je fais de la piscine, je fais du vélo et je m'amuse avec mes cousins.
Ah, mais ça, c'est quand t'es à la campagne. Il y a une piscine. La chance. Mais elle est glacée? Non. Tu la réchauffes avec du feu?
Non, parce que c'est dans le domaine, il y a 3 piscines.
Mais dis donc, qu'est-ce que c'est que ça? C'est somptueux. Tu sais vers où c'est qu'on y aille, non?
Je peux y aller toute seule.
Mais nous, tu y vas toute seule? Avec ta petite valise à roulettes le long de la route?
Non, j'y vais en vélo.
Mais tu vas où en vélo?
À la piscine.
Ah oui, d'accord, je croyais que tu allais de Paris à la campagne.
Non,
quelles activités?
Je vais en voiture.
Toi, t'as quel âge par exemple?
9 ans.
Et quelles sont les choses qu'on peut faire toute seule à 9 ans?
Aller chercher le pain.
Oui, tu veux dire à la boulangerie? Donc ta mère, elle te laisse, tu descends de la maison, tu vas chercher le pain toute seule, ok?
Je vais aller à l'école toute seule à Paris. Pour rentrer toute seule et je sais pas quoi.
Bah, c'est déjà pas mal. Et tu prends quoi? Le métro, le bus pour l'école? C'est, tu prends quoi?
Pour l'école, je marche à pied, c'est juste en face.
Et t'aimes bien? T'es fière d'aller seule?
Oui.
Est-ce que dans ton école, on a droit au cartable à roulettes?
Oui.
Ah, il y a des écoles où ils ne veulent pas. Hein.
Ah, moi, j'en ai pas, par contre.
Ah non, mais tu aurais le droit.
Oui.
Mais ça va, tu préfères porter des pierres.
Oui, voilà.
Dans tout cas, c'est quoi ton poème, Élie?
C'est « Si ».
Est-ce que tu connais la chanson de France Gall, « Si, maman, si ». Maman, non. Si tu voyais ma vie, je pleure comme je ris.
Non.
Eh ben, c'est pas grave, parce que moi, je vais apprendre le... C'est de qui, si ?
Jean-Luc Moreau.
Jean-Luc Moreau, il y a un metteur en scène de théâtre, c'est pas lui.
C'est le metteur en scène de théâtre.
Non, peut-être. Alors, on t'écoute, ma chère Élie.
Si. Si la sardine avait des ailes, si Gaston s'appelait Gisèle, si l'on mourait avant de naître, si la porte était à la fenêtre, si l'agneau dévorait le loup, si les Normands parlaient aux loups, si la mer noire était la Manche et la mer rouge la mer blanche, si le monde était à l'envers, je marcherais les pieds en l'air. Le jour, je garderais la chambre, j'irais à la plage en décembre, deux et un ne feraient plus trois, quel ennui ce monde à l'endroit. Jean-Luc Moreau.
Ah, c'est super. Alors on va jouer à si. On joue à si. Attention, je te dis des si et tu finis la phrase, d'accord ? Si tu étais... si tu étais une maman, qu'est-ce que tu dirais à tes enfants ?
Allez-vous coucher ?
Allez-vous coucher dès le matin, c'est très bien. Si tu étais un morceau de pain, qu'est-ce que tu dirais à la personne qui veut te manger ?
Ne mange pas, je veux rester en vie.
Excuse-moi. Si tu étais une paire de lunettes, qu'est-ce que tu dirais ?
Je vois très bien.
Si tu étais une chanson, tu t'appellerais comment ?
Élie.
Si tu étais une couleur, ce serait laquelle ?
Rouge.
Pourquoi ?
Parce que c'est ma couleur préférée.
Parfait. Atmen ?
Oui, le rouge aussi, c'est ma couleur
préférée. Non, ce n'était pas la question. Vous voulez dire que vous êtes très mignon.
Surtout en bouteille.
Élie, tu es formidable. Tu vas formidable. Partir à la campagne, là. Tu fais ta valise toi-même ou pas ?
Oui.
Tu vas mettre quoi ?
Des baskets.
Oui.
Des pantalons.
S'il te plaît.
Un short, si oui. Il fait beau. Un maillot de bain,
oui.
Des t-shirts,
oui.
Des pulls et
oui.
Voilà.
Non, pas voilà. Non. Élie, je ne suis pas content. Tu vas pas faire comme ma fille. Qu'est-ce que tu as oublié là ?
Culotte.
Ta brosse à dents. Tu vas la prendre cette brosse à dents ? On va pas en racheter à chaque fois. Bonnes vacances, Élie.
Merci.
Il est 8h, les infos. Et ça rime avec Marie Bonisson.
Vous pouvez annoncer les choses d'une façon... Atmen,
oui.
C'est pas parce que je vous ai demandé de le faire qu'il faut rajouter un petit truc.
Si, parce que...
Vous pouvez dire 8h, Marie
8 heures, Bonisson, Marie Bonisson,
vous
êtes pas obligé
de créer un petit trait d'esprit. C'est fatigant.
Ah bon ?
Les choses telles qu'elles sont, sans les interpréter, Christophe.
Je me lève, je prends un café, je m'habille, je me douche pour me faire engueuler.
C'est exactement ça, Marie Bonisson.
C'est ta patte.
À 2 semaines du premier tour, ça y est, la campagne présidentielle a officiellement démarré. Concrètement, ça veut dire que les télés, les radios doivent donner le même temps de parole exactement à tous les candidats et leur soutien. Hier, Jean-Luc Mélenchon a voulu montrer qu'il en avait beaucoup des soutiens. 70 000 personnes massées sur la Canebière à Marseille avant le retour des hologrammes de Mélenchon mardi prochain dans 7 villes en même temps. Mélenchon, que certains sondages placent désormais devant François Fillon dans les intentions de vote. François
et
Fillon.
Devant Hillary Clinton aussi.
Oui, c'est vrai qu'elle fait que 15%. François Fillon, lui, a rassemblé 25 000 personnes à Paris, porte de Versailles, hier aussi. Il leur a demandé, non pas de l'aimer, mais de le soutenir. Et puis, du côté du Front National, Marine Le Pen provoque l'indignation avec ses propos sur la rafle du Veldiv. La France n'est pas responsable, estime la candidate Front National. À propos de cette opération de la police française en 1942 à Paris, 13 000 personnes juives arrêtées, puis déportées. En disant cela, Marine Le Pen s'inscrit dans la tradition vichiste et collaborationniste de son père. A réagi le CRIF. Un mot enfin de François Hollande. Que va-t-il devenir ? Eh bien, d'après France Bleu Limousin, le maire de Tulle a été chargé d'ouvrir l'œil sur le marché immobilier pour trouver un logement corrézien au futur ancien président. En Égypte, l'état d'urgence décrété pour 3 mois après les 2 attaques revendiquées par l'État islamique hier contre des églises coptes à Tanta et Alexandrie. 44 morts au total en plein dimanche des rameaux qui marquent le début de la semaine sainte pour les chrétiens. Daesh affirme que les kamikazes étaient des Égyptiens. En Guyane, les grévistes renoncent au blocage total. Ils voulaient durcir les barrages à partir d'aujourd'hui, mais finalement, piétons, vélos, scooters vont toujours pouvoir circuler. Hier, la ministre des Outre-mer, Erika Barreit, a promis plusieurs millions d'euros d'aide en plus et réclamait la fin de ce mouvement qui dure depuis presque 3 semaines. L'économie guyanaise ne peut être ainsi fragilisée plus longtemps, a déclaré la ministre. Enfin, en football, le PSG a écrasé Guingamp, 4-0. Les Parisiens restent 3 points derrière le leader Monaco au classement de Ligue 1. Puis plus tôt dans la journée, 2 matchs nuls, 0-0 entre Marseille et Toulouse, 1 partout entre Saint-Etienne et Nantes.
C'est quoi là, on cherche une maison à Tulle,
oui,
pour
mais
François
vous m'écoutiez
Hollande,
pas,
mais
oui,
si j'en revenais pas. Alors justement, on reçoit Bernard Bollet. Bonjour Bernard Bollet, vous êtes agent immobilier
j'ai la veste, même.
sur Tulle centre-ville et Tulle.
Tulle-Madeleine.
Ah oui, c'est Tulle, la station Madeleine à Tulle.
Voilà.
Quand on arrive dans Tulle, on
tourne à droite.
À droite.
On passe la mairie.
On passe l'Intermarché.
Ouais, l'Intermarché, la gare.
La gare. Je suis à la gare.
Voilà. Vous
passez quoi?
Vous tournez. Vous voyez le Kiloutou. Et
le
derrière, il y a mon agence.
Le Kiloutou, il y a votre agence. Et là, on est dans le secteur Madeleine, secteur très prisé des Connoisseurs.
Voilà.
Secteur, je dirais, un petit peu des notables de Tulle.
Oui.
Et c'est là que vous pensez loger. François Hollande.
Voilà, alors j'ai pour lui un 40 mètres carrés.
40 mètres carrés, ce n'est pas beaucoup pour un ancien président de la République.
Oui, mais ça suffit, voilà.
Ça suffit s'il était célibataire, mais il est marié avec Madame Hollande.
Oui, mais qui prend beaucoup de place.
Alors donc peut-être un deuxième 40 mètres carrés. Marcel Bigot, bonjour. Vous êtes conseiller en appartement pour couple et pour ancien président de la République. Je rappelle que c'est vous qui avez relogé les Sarkozy dans du neuf.
Oui.
Vous m'avez dit Sarko, il veut du neuf.
Ah bah oui.
Sur Chirac, qui voulait de l'ancien, vous l'avez trouvé en moins d'une semaine. Quelque chose avec vue
très correct
avec vue
sur la Seine,
vue Seine ouais. On est sur Paris là. Chirac voulait du Paris,
double exposition
sud-ouest, appartement ouais. Toutes les commodités, eau chaude, eau froide, oui. Salle d'eau, salle de bain, salle de, vous me dites c'est salle d'eau séparée pour madame à la demande de Chirac,
oui, spécialement
bon. Spécialement sur oui. Le monsieur Hollande, est-ce qu'on a des demandes aussi particulières,
oui,
que ça,
parce
sur
que moi j'ai demandé à monsieur Hollande,
attendez, ne m'engueulez pas déjà,
je vous engueule pas,
non parce que j'anticipe,
attendez, vous en êtes
donc monsieur, s'il vous plaît monsieur Bigot, une seconde. On reviendra
sur
les
chiffres. Moi, le débat est un petit peu passionné.
Oui. J'ai demandé à M. Hollande 3 fiches de paye et un RIB pour compléter le dossier.
Non, mais quand même.
Il ne les avait pas.
Enfin, écoutez, c'est l'enjeu.
Non.
Attendez, je vais le jouer encore plus mal. Oh non. Oh, écoutez.
Non, mais je trouve ça pas mal.
Vous êtes gentil. Marcel Bigot, autre chose sur les logements d'anciens présidents?
Non, bon, en ce moment, c'est assez.
Évidemment, si je vous avais prévenu, on aurait pu préparer un sketch.
Oui,
mais
bon,
ça n'a pas eu lieu. Très mal joué.
Merci. Météo Tito, plutôt à 8h30, Titonné. Jacques Souvent dans la rue. Jacques Souvent.
On a ouvert la boutique de pressing avec Aminat.
Oui, bonjour. Oui.
On a ouvert la boutique de pressing. Moi, je chantais. Je voulais que le lundi matin ne soit pas comme un lundi matin normal. Mmh. Et puis, j'étais bien accueilli là. Et j'ai posé la question à Aminat. Quelle chose la plus dingue elle aurait fait par amour pour quelqu'un?
En fait, par quelqu'un, j'ai offert un billet d'avion pour découvrir mon pays, quoi.
Mais sans vous?
Si, avec moi, quand même.
Ah, parce que quand on aime quelqu'un, d'habitude, on lui offre rarement un billet pour qu'il parte loin.
Ah, non.
Je t'aime, va-t'en, non.
On peut faire ça aussi, hein.
Mais Amina, vous voulez dire que votre pays, ça n'est pas la France, Amina, enfin...
Si, je suis une Française.
Ah, mais vous avez deux pays, la chance. Et votre pays d'origine?
Madagascar.
Ah, Madagascar, ça me fascine. Voilà. Donc le fameux Paris en Antananarive de 8h32?
Oui, surtout Nocibé. Nocibé, c'est une belle île, il faut découvrir, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Hein.
Ah, il faut aller dans l'île de l'île. Donc une fois qu'on est à Tana, on fait quoi pour aller à Nocibé? On prend un bateau?
Il y a de l'avion, ou sinon vous passez par La Réunion et vous pouvez y aller aussi sur Nocibé. Hein.
Parce que moi, j'ai pas un Paris-Nocibé direct, là, si?
Non. Obligé de passer par La Réunion ou par Tananarive.
Il a aimé, alors, ce monsieur qui voulait faire le billet?
Oui.
Amina, on va être très précis, vous et moi. Est-ce que vous avez pris 2 billets côte à côte dans l'avion?
Oh là là, oui, bien sûr.
Est-ce qu'il vous a pris la main dans les turbulences?
Oh non, j'ai pas besoin de ça, je suis grande.
Et lui, il a pas peur?
Si, il a très peur.
Oui, il a peur. Mmh. Donc c'est vous qui le soutenez dans ces moments difficiles, les turbulences?
Voilà.
C'est très beau ce que vous faites pour lui. Et le monsieur est encore présent dans votre vie?
Non. Il n'est plus. Ça fait 18 mois.
Je suis désolée, ça va?
Non, je suis bien, ouais. Heureusement d'ailleurs. Je suis très très bien de qu'il ne fait plus partie de ma vie. Hein.
Mais c'est à la suite de ce séjour que ça a merdé?
Non, pas vraiment, mais c'est de tout, quoi. C'est la vie quotidiennement, hein. Voilà, on est passé vivre ensemble, voilà. Il y a un moment donné, il faut tourner la page.
Mais bien entendu, parce que le livre est grand et il y en a des pages dans ce livre, Aminata.
Exactement.
Et elle est belle, la prochaine page. On est sur quelle page, Amina, en ce moment-là?
Ah, je ne sais pas encore. Je suis en train de regarder.
Vous regardez autour
de vous.
Alors, on a Jack souvent. Décrivez un peu notre chroniqueur, notre ami Jack qui se balade dans les rues. Comment il est physiquement?
Il est pas mal. Il est adorable. Il est accueillant. Ça fait plaisir un lundi matin.
Oui, c'est un très bon masseur aussi. Il a vraiment.
Ah oui. Oh là là.
Il est remarquable dans les points de pression, les points d'acupuncture. Il est à la fois dans le shiatsu, il est vraiment dans le. C'est quelqu'un de remarquable. Amina, vous allez ouvrir le pressing. On va partir sur quoi? Il y a du vêtement. Il y a des machines à combien qui vont tourner?
Bah là, en fait, c'est un dépôt ici. Donc, en fait, je réceptionne les vêtements et presque le magasin. Il y en a 7 magasins sur Paris.
D'accord.
Donc là où je suis, en fait, c'est un dépôt. Donc voilà, je gère et voilà. Quoi.
Il reste des choses dans les poches parfois? Des petits mots, des petits trucs?
Non, ça n'existe plus tout ça.
Donc il y a plus rien dans les poches, il y a plus le monsieur de Nocibé. Mais alors l'avenir est très ouvert, Amina.
Oui, mais bon, je suis bien.
Allez, on chante une chanson tous les deux. Qu'est-ce qu'on pourrait chanter?
Je ne suis pas.
Vous avez une voix très chantante.
Non, je ne suis pas, vous voyez.
Très bien. Bah, écoutez, je vous fais parvenir par la radio une photo de Jack Souvent en maillot de bain. Et je vous embrasse très fort, Amina.
Moi aussi, je vous embrasse. Salut, et bonne semaine.
Vous êtes super. Salut, bonne semaine.
7h, 9h, plus près de toi.
Plus près de toi.
Plus près de toi. 7h, 9h.
2 heures d'émission. Mais c'est beaucoup trop court.
Salut.
Salut.
T'habites là? Ah, oh, c'est bien chez toi. Ouh, quelle chaleur. Tu es dans ton bain? Ouh, moussant. Waouh, c'est grand. Ouh. Textile? Ou nature? Où ai-je la tête? C'est toi qui l'as tricoté?
Oui.
De sucre?
Non.
Un nuage de lait?
Pourquoi pas?
Ouh, caliente.
J'ai chaud. Mais tu n'es pas seul.
Je suis venu avec des amis.
Charmant. Tu as chaud?
C'est moite. Retire tes chaussettes.
Qu'est-ce qui s'est passé pendant le choix? Je ne sais pas. J'ai vu des gens passer c'est dans le morceau, oui. Et ils sont partis par là.
Ils avaient des serviettes.
Oui, je voudrais rassurer les auditeurs. Moi, j'étais là. Bon, je respecte la musique qui passe, donc je me permets. Et j'ai vu passer des gens.
Oui,
j'ai ça parce qu'il y a des flics qui m'ont. Oui, monsieur. Ils sont passés pendant le morceau. Oui. Ils sont partis.
Ils sont partis très vite.
Ils sont allés
vers les douches.
Ils ont couru par là. Dis donc, Ahmed. Qu'est-ce que vous me disiez là? Vous étiez choqué du fait que plus personne ne traite de l'actualité
oui,
de François Hollande.
On a parlé des infos et François Hollande a quand même célébré l'année 1917, la guerre, et les Canadiens à Vimy. Mais c'était énorme. Il y avait 40 000 personnes, des vieux avions. C'était un truc vraiment énorme. Comme
c'était où?
C'était à Vimy, du côté de la ligne Maginot, là.
À l'est, oui.
Voilà,
oui.
À l'est. Et personne n'en parle. Personne n'en parle. C'est... Le président ne fait plus recette. Mais juste aussi, je voulais dire, j'adore le titre de la nouvelle émission de Bourdin qui interviewe les candidats. Ça s'appelle Entretien d'embauche. Et je trouve ça quand même excellent. Il est remis quand même un pied d'égalité, entretien d'embauche.
Non, mais regardez la photo, il y a de la fusée, il se met au milieu.
Il se met au milieu,
il a pété un plomb.
Voilà, tout à fait. Tito, on dirait une affiche de Robert Hossein.
Vous aviez un truc sur les microbes, Tito.
Oui, c'est le printemps, il faut tout nettoyer dans sa maison. On aère, on ouvre les fenêtres, on sort les matelas, on les met au balcon, on leur fait faire un tour de vélo, ce que vous voulez. Alors, il y a un classement pour savoir ce qu'on a, les objets de chez nous qui sont vraiment les plus dangereux, qui ont le plus de microbes, le plus d'acariens. Alors, la première, c'est la planche à découper. Quand vous coupez votre viande, en fin de compte, ça s'incruste. C'est la numéro 1, dites donc. La seconde, c'est l'oreiller. Hein ? Alors, l'oreiller, il y a 200% plus crado que la lunette des toilettes. Ah, ça, c'est incroyable. Après, il y a les torchons, la brosse à dents, et pour terminer, les éponges. Et on peut imaginer tout ce qui va derrière, tout ce qui peut vraiment être microbien. Et surtout nos vieilles gamelles. Alors, il faut savoir, nos gamelles, téfales, machin, ça accroche pas, machin, bidule. C'est du bidon. Ça se désagrège, et après, on avale ce qui est désagrégé, et ça nous empoisonne le foie.
Oui.
Donc, cuisinons avec nos bonnes vieilles poêles en ferraille.
Sans parler de la bombe atomique qui a détérioré la météo, et puis tous les étrangers qui prennent nos emplois.
Ouais.
Dès qu'il y a eu des dérapages le pénis, plus personne ne réagit, j'en peux plus.
Si,
alors les microbes, il y en a trop, il y a les machins, la météo, tout est détérioré, tout fout le camp, quoi, c'est ça.
C'était mieux avant.
Il nous faut des microbes.
C'était mieux avant, j'attendais.
C'était mieux avant.
Attendez, Christophe Méné.
Non, mais oui, parce qu'il y a eu une information dont personne n'a parlé non plus, c'est comme François Hollande, et ça m'énerve. C'est sur Slate.fr, ils ont repéré des articles du New York Times et du New York Magazine. Le directeur du métro de Washington remet en cause les pratiques des usagers. Il déclare « Nous n'encourageons pas le fait de marcher à gauche de l'escalator car il s'agit d'équipements très fragiles. Nous préférons que les gens restent immobiles quand ils montent par l'escalator. »
Dans les tapis roulants ou les escaliers roulants, il ne faut pas bouger.
Il ne faut pas bouger parce que ça endommage le truc. Alors le New York Times a décidé de répondre fermement. Restez debout sur l'escalator, cela n'en fait pas moins de vous un monstre de paresse. Ils ont... Et alors du coup, bon...
Gamin,
oh, oui.
Elle est belle ta colère.
Oui. Une nouvelle amende en prévision.
Belle colère, hein. C'est superbe ce qui se passe dans ton regard. T'es un beau môme, t'es un petit môme de Paname, t'es là, t'as envie de faire le coup de poing, t'as envie de monter sur les fortifs. Puis...
Bien sûr, il y a des sujets quand même.
Ouais, t'es là, puis tu te bats contre l'injustice, tu commences le coup de boule, puis tu finis au sol, quoi. T'en as plus rien à foutre.
Souvent, je finis au sol. Ouais.
T'es un beau môme. Tiens, je t'envoie les vigiles. On appelle Marie Misset.
Qui c'est qui a dit qu'elle travaillait pas, qu'elle fait que lire le journal? La revue de presse de Marie Misset.
Je trouve qu'on n'a pas fait assez d'écrits à Marie Misset avec nos petites infos minables avant, mais des
rapaces extrêmement... Je sais pas si on va aller.
Ah bah si, justement.
Peut-être qu'on peut faire une toute petite chorale vocale.
Oui.
Et puis, attention, une petite... mais à la bouche peut-être.
Marie Misset, Marie...
Et tout de suite, juste avant, une imitation. Marie. Roger Hanna dans Le Grand Pardon par Lionel Abelansky.
Mais qu'est-ce que tu crois? Qu'on t'a attendu à Miami pour faire la loi?
Tu me trouves gros? Tu me trouves gros?
Merci. Maintenant, on peut remettre le générique, cher Armel.
Merci. Qui a dit qu'elle travaillait pas, qu'elle fait que lire le journal? La revue de presse de Marie Misset.
Compliqué de passer après.
Non, au contraire, vraiment, c'était d'un tel niveau que tout est remarquable après, surtout vous.
Dans la presse ce matin, deux tendances. D'abord, suite au meeting rempli à craquer hier à Marseille de Mélenchon sur la Canebière, ça perçait dans les sondages. Mélenchon-Fillon, la lutte des classes, des places, pardon. Titre Libé. Mélenchon, jusqu'où ira-t-il, renchérit le Parisien. Ses militants commencent à entrevoir la lumière. L'autre tendance, plus Bernard Lhermitte dans le style Je m'accroche, consacre un François Fillon batailleur qui croit dur comme fer que les faiseurs d'opinion seront stupéfiés. C'est relaté à la fois dans Libé, mais aussi dans Le Figaro et Le Parisien. En tout cas, dans les rangs fillonistes en ce moment, il y a un gros talent pour la punchline. François Fillon est pour Éric Ciotti la bouée de sauvetage du pédalo fracassé sur le rivage. On sait tous qui est le pédalo dans l'histoire. Macron est pour François Baroin, oui, dans le monde merveilleux et musical de Lala Hollande. Il fallait quand même la trouver, celle-là.
On l'a entendu.
Bref, à défaut d'y croire tout à fait, la forme revient chez les Républicains. On apprend par exemple dans Le Figaro que François Fillon est tout à fait ravi et fier de sa formule Emmanuel Hollande, pour parler de Macron. Donc,
l'impression... Et la réponse de Macron, vous l'avez entendu?
Ah non, dites-moi.
François Balkany.
Ah si, je l'ai vu.
Oui, c'est formidable.
Il a dit, je ne vais pas l'appeler François Balkany.
Il m'appelle Emmanuel Hollande, mais moi je ne l'appelle pas François Balkany. C'est plutôt à ça qu'il ressemble aujourd'hui. Oui.
La lutte des clashs.
L'impression qui domine chez moi, en tout cas en lisant la presse ce matin, c'est en tout cas que chez les journalistes, on suit cette campagne comme un Tour de France. Qui va arriver en tête du peloton au finish, expression utilisée par tous, le finish, et Libé filme ma métaphore en comparant Mélenchon à un Bernard Hinault de la grande époque. En tout cas, chez les quatre candidats favoris dans les sondages et dans la presse, on a l'air d'accord avec l'interview de Raphaël Enthoven dans Le Monde, qui dit que le pessimisme est une facilité, un confort pour la pensée. Du coup, hop, pour les candidats et leurs militants, on sort du confort, on y croit même quand les faiseurs d'opinion disent le contraire. Un homme qui a longtemps été optimiste, c'est George Soros, et il s'en donnait les moyens. Le milliardaire d'origine hongroise fait l'objet d'un long article dans Le Monde de ce week-end. On y apprend qu'il est loin d'être la cible du seul Alain Soral. Le milliardaire qui, depuis les années 80, utilise ouvertement son argent pour faire vivre ses idées, est en effet la cible favorite du pouvoir hongrois. Viktor Orban en tête. Le gouvernement l'accuse entre autres de vouloir favoriser l'immigration, même l'illégale. Déjà quand il avait pris et soutenu financièrement la défense de l'identité rome, les dents de Viktor avaient grincé. L'ironie de l'histoire, c'est que les illitudes de Viktor Orban, comme celle de Zoltán Kovács, le porte-parole du gouvernement qui manque pas une occasion de cracher aussi dans la soupe, ont été payées toutes par une bourse Soros. Il avait beaucoup dépensé dans les années 80 et dans tous les domaines en Hongrie pour renverser le communisme, et ces créatures semblent à présent se retourner dans un volte-face assez violent contre lui. Son optimisme, lui, est grignoté par la situation internationale, et ses méthodes d'infiltrer entre autres par le soft power les rouages d'un pays ont montré leurs limites, de leur capacité à être exploitées par d'autres qui nourrissent un projet contraire au sien. La preuve que les méthodes de Soros ne sont pas complètement datées, dit-on dans Le Monde, c'est que Vladimir Poutine les a retournés à son avantage. Il soutient à l'ouest des infrastructures pour créer une société fermée. Donc gros portrait de deux pages de Soros dans Le Monde. Autre milliardaire, autre ambiance.
Voilà.
Pardon.
Parce que c'est tellement touffu, c'est brillant, mais tout à coup, moi je suis pas du niveau si vous enchaînez si vite.
Alors maintenant, c'est pourtant un autre milliardaire. On reste dans l'argent, dans le gros argent. Autre ambiance, autre projet de société. Cette fois c'est dans le Figaro où on nous présente la famille Mercer, sponsor du Trumpisme. Robert Menser et sa fille la plus jeune Rebecca ont bâti à coups de millions un réseau d'influences conservateurs tendance populiste. Ils sont par exemple propriétaires à 50% du site d'extrême droite Breitbart de Steve Bannon. Ils ont puisé dans leurs ressources pour soutenir Trump dès que Ted Cruz a reculé, et ils financent des recherches qui vont dans le sens de leurs idées, comme Soros, diront certains. Ainsi, le père Mercer, génie de l'informatique qui aime plus les chats que les hommes, s'est entiché d'un professeur intégriste chrétien de l'Oregon. Il s'appelle Arthur Robinson, et cet homme, il affirme entre autres que la santé des Japonais a été améliorée par les radiations d'Hiroshima, que les 14 000 échantillons d'urine qu'il garde dans son labo vont lui permettre de découvrir le secret de la vie éternelle. Mercer lui a donné 1,6 milliard de dollars pour ses travaux, notamment sur la non-dangerosité de la guerre nucléaire. Un cadre de l'entreprise de Robert Mercer explique dans le Figaro que Bob, donc, a placé ses gens autour du président. Président Trump, il a acheté leur place. Pendant ce temps-là, dans Libé, certains n'ont pas le luxe du pessimisme ni de l'optimisme, pas le luxe de penser à l'avenir. Ce sont les allocateurs, tous différents, du RSA que Libé a rencontré. Leur point commun, pour tous, l'horizon est quasi immédiat. Compliqué de faire des plans sur la comète avec 470 euros par mois. L'article d'ailleurs termine sur ces mots. Ceux qui parlent d'assistanat, ce sont des beaufs et des blaireaux. Ont-ils la moindre idée de ce que je peux vivre dans ma tête? Est-ce que le sens de ma vie, c'est d'attendre le 5 du mois pour vivre avec 470 euros.
Merci, j'ai compris ce parallèle en extrême richesse et grande pauvreté. J'ai compris, merci Marie-Lise. Christophe Menet, quant à vous, vous avez financé des candidats américains?
Oui, à plusieurs reprises.
À plusieurs reprises, vous y êtes allé à coup de des 5, des 6 euros?
Oh, oui, 10 euros parfois.
Parfois 10 euros, merci.
En chèque.
En chèque postal.
Exactement.
Merci Jean-Christophe Menet et Marie Missé. Gloire à vous.
Édouard Baird, 7h, 9h, à mon avis, il ne fait pas ça pour rien.
Je voudrais que vous soyez chez vous, là, que vous n'ayez pas de doute, que vous vous trouviez formidable. Je voulais faire une rubrique psychologie un peu cheap,
oui.
Un peu cheap comme ça, un truc de magazine féminin un peu. Vous êtes formidable. Et voici maintenant le journal de Marie Bonisson.
Les 11 candidats à la présidentielle n'ont plus que 2 semaines pour vous convaincre. Et pour ça, ils ont désormais le même temps de parole exactement chacun dans les télés et les radios. C'est la règle de l'égalité stricte qui s'applique à partir d'aujourd'hui jusqu'au premier tour. Sinon, hier, Jean-Luc Mélenchon a tenu un meeting géant. 70 000 personnes massées sur la Canebière à Marseille. Certains sondages le placent désormais devant François Fillon dans les intentions de vote. François Fillon qui lui a rassemblé 25 000 personnes à Paris, porte de Versailles. Il leur a demandé non pas de l'aimer, mais de le soutenir. Enfin, du côté du Front National, Marine Le Pen provoque l'indignation avec ses propos sur la rafle du Veldiv. La France n'est pas responsable, estime la candidate Front National. À propos de cette opération de la police française en 1942 à Paris, 13 000 personnes juives arrêtées, puis déportées. Si vous comptiez passer le permis aujourd'hui, il faudra repasser. Les inspecteurs parisiens sont en grève suite à l'agression d'un collègue vendredi dans les Yvelines. En Nouvelle-Calédonie, on se protège contre Cook, le cyclone qui devrait souffler jusqu'à 200 km/h et soulever des vagues de 10 mètres au large. Alors que Météo France alerte sur des conséquences qui pourraient être graves, la quasi-totalité de l'archipel passe en alerte maximale. Les habitants sont confinés chez eux et doivent sécuriser leur maison. En Guyane, les grévistes renoncent au blocage total, très critiqué par la population. Les barrages laisseront finalement passer quand même les piétons, les vélos et les scooters. Hier, la ministre des Outre-mer, Erika Barreit, a réclamé la fin du mouvement qui dure depuis maintenant 3 semaines. En Égypte, l'état d'urgence est décrété pour 3 mois après les 2 attaques revendiquées par l'État islamique hier contre des églises coptes à Tanta et Alexandrie. Au moins 45 morts en plein dimanche des rameaux qui marque le début de la semaine sainte pour les chrétiens. Daesh affirme que les kamikazes étaient des Égyptiens. Enfin, en football, le PSG a écrasé Guingamp, 4-0. Les Parisiens sont à 3 points derrière le leader Monaco au classement de Ligue 1. Et puis plus tôt dans la journée, 0-0 entre Marseille et Toulouse et 1 partout entre Saint-Etienne et Nantes.
Elle est étonnante la phrase de Fillon, je ne vous demande pas de m'aimer, je vous demande de me soutenir.
Elle est rationnelle.
Ah oui, mais elle est littéraire aussi. Vous savez, il y a cette phrase qui dit je ne suis pas de ceux qu'on aime, je suis de ceux dont on se souvient. Ça me fait penser.
Il a dit une phrase aussi que personne n'a compris à l'encontre de Mélenchon. Il a dit, il veut avoir les clés du cuirassé Potemkin, il n'aura que celle du Titanic.
Si, c'est une métaphore
mythique. Vous avez choisi le déshonneur pour éviter la guerre, vous aurez le déshonneur et la guerre.
Churchill.
La météo de Tito. On est dans une forme ce matin. On va... Avec Lionel Abelansky, invité dans la météo.
Oui, Lionel.
Ça va être sur quoi?
Ouvrez la cage aux oiseaux.
C'est des météos Pierre Pérez ce matin.
Regardez-les s'envoler, c'est beau. Les enfants, si vous voyez des petits oiseaux prisonniers, ouvrez-leur la porte vers la liberté.
Aujourd'hui, Sainte-Fulbert, c'est la semaine sainte à Séville. Il y a du soleil et des nuages partout sur toute la France et des orages à Clermont-Ferrand, Lyon et Strasbourg. Alors, les températures seront à Poitiers de 7 à 19, à Tours de 6 à 19, à Boulogne-sur-Mer de 6 à 11, à Brest de 7 à 14, à Corté de 7 à 23, à Limoges de 8 à 22, à Angers de 5 à 19, à Beauvais de 3 à 16. Et sur la Lune, il fait moins 175 degrés et plus 125, c'est incroyable.
Non mais ça va pas, mon grand.
Qu'est-ce que vous
prenez? Non, qu'est-ce que j'en ai à foutre de tous ces chiffres?
Bon, c'est intéressant, non?
Bah, je ne sais pas, je te souviens à un moment, tu comprends bien, je crois. Hein. Alors, mettez envoyé Jacques souvent. Merci,
mais quand on met la flèche sur le haut d'une cathédrale, c'est vous, c'est les couvreurs qui faites ça?
Non, c'est pas nous. C'est les gens qui s'occupent de tout ce qui est paratonnerre et tout ça, là.
C'est que du paratonnerre.
Les paratonnerres, c'est ce qui empêche que la poudre frappe, en fait. C'est pour attirer la poudre, pour éviter que ça aille sur la toiture et tout ça.
Ouais. Et on parlait de cette cathédrale que vous avez rénovée à Meaux, là. Un chantier comme ça, c'est combien de temps sur les toits?
À 6 mois, à peu près. Oui.
À quoi on pense quand on est perché comme ça?
À rien, hein. On fait le boulot. Je crois qu'on n'a pas le temps de penser à quoi que ce soit, hein, parce qu'on travaille.
Je vois votre petit regard, ça m'étonnerait.
Si.
Et là, il est 8h30, vous devez être sur chantier à 8h, qu'est-ce qui se passe?
Ah bah, on a eu une livraison ce matin, là. Donc on a commencé de bonne heure, et on récupère les heures.
Livraison
de plomb. Oui.
Parce que là, vous êtes au 6e, 7e étage d'un immeuble?
Oui, c'est ça.
Vous rénovez tout au plomb?
Voilà, on refait tous les balcons, on fait un revêtement en plomb sur tous les balcons.
Mais en fait, on est devant un café quand même.
Oui. Oui, on est devant un café, mais bon, comme on a commencé tôt ce matin, le déchargement et tout ça, donc voilà, on reste un peu là en bas, boire un petit café, tranquille.
Est-ce que quand on est couvreur, on a quand même des petits regards comme ça sur les appartements, sur les fenêtres qui sont ouvertes, sur les...
Bah non, puisque quand on est là-haut pour travailler, pas pour mater. Hein.
Je suis pas un secteur du travail. Hein.
Mais quand on monte sur l'échafaudage, oui, bien sûr, on passe devant les fenêtres. Donc voilà, bien sûr, on a le regard, oui. Mais on n'est pas là forcément pour ça, quoi.
Non, c'est pas ce que je voulais dire.
Voilà. Non, mais il a... Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Non, parfois, on n'est pas là pour quelque chose. On est là pour une chose, on fait autre chose. Et c'est la nature humaine. Donc, qu'est-ce qu'on voit?
Bah, bien sûr, on a des yeux pour ça. Hein.
Bah, bien sûr, on a des oreilles, on a un nez, on a des mains.
Et alors, qu'est-ce on a plein de choses.
On a des choses formidables. Et dites-moi, qu'est-ce que vous voyez par les fenêtres, parfois?
Bah, écoutez, des fois, on voit des belles filles.
Qui vous font des petits coucous?
Ah non, elles font pas coucou. Elles tirent les rideaux quand elles ouvrent.
Elles tirent le rideau dans le sens de la fermeture.
Voilà, de la fermeture.
Mais y a
même
la...
si nous, on voudrait ouvrir, ils ferment.
Mais il y a la petite magie, il y a le quart de seconde où on croit avoir entreaperçu quelque chose.
Et voilà, oui. Tout à fait, ouais.
Parfois, c'est pas mal, ce tout petit moment-là qu'on chope.
On peut pas rester trop longtemps devant la vitre. Après, il y a de la buée et on voit rien. Que les mecs, ils s'approchent, hein. Ils mettent le nez carrément sur la vitre. Il y a Roméo, il y a Daniel Lamert. Les plus gros sadiques du chantier.
Alors attendez, je note, on va les signaler. Roméo
et Lamers.
Mais Daniel, ça,
c'est les plus gros vicieux du chantier.
J'en avais entendu parler de Roméo. Roméo,
dès qu'il y a un mat, on le sait. Hein.
On l'appelait un peu Roméo, les mains qui traînent. Roméo, les trois yeux, on l'appelait.
Voilà, c'est ça.
Ouais. Roméo, les onze doigts. Roméo, ouais, je le connais. Bon, bonne journée, cher monsieur.
Merci.
Et belle vie sur les toits du monde.
On fait un beau métier quand même.
C'est beau d'être sur
un beau métier, la couverture, oui.
C'est beau d'être là-haut. Salut.
Salut.
Merci.
Ciao.
7h-9h, plus près de toi.
De 7h à 9h, j'écoute plus près de toi.
Plus près de toi.
Il fait une chaleur dans cette émission.
Nu, c'est spécial dédicace à Pat Nu.
Nuski et Vati, le morceau.
Oui. Mais qui est là ce matin, c'est Richard Guettet.
Je confirme cette information. Bonjour Edouard.
Bonjour Richard. Richard, vous êtes un homme du soir plutôt.
En général, c'est vrai.
C'est un honneur que vous veniez le matin. Je rappelle que Nova Book Box est tous les soirs à 21h.
Oui.
Donc vous, votre journée, comme les acteurs de théâtre, une montée vers la nuit. Là, vous êtes en descente.
Bah là, c'est très dur. Je vous le confirme, c'est très dur. D'habitude, on est plutôt encore dans le rêve à cette heure-là. Et là,
bien, je peux dire que le rêve va vous rattraper,
très bien.
Richard. Alors, cette émission culte de Radio Nova, combien d'années le Nova Book Box, Richard?
Sixième saison, déjà.
Sixième saison.
5000 lectures, à peu près, racontées. 5000 histoires racontées chaque soir à nos auditeurs. Ça fait beaucoup.
Hein. Bah, par vous et plein d'autres intervenants, plein de gens viennent dire des histoires.
Absolument, c'est ça.
Comment ça, des acteurs, des non-acteurs, des...
Acteurs, beaucoup d'écrivains, des dessinateurs, des scénaristes de bande dessinée. L'idée, c'est ça, c'est de sélectionner des histoires qui proviennent de romans, d'essais, de pièces de théâtre, de poésie, tous les époques, tous les styles. Et je récupère des fragments, et puis quand les auteurs sont de passage, ils viennent eux-mêmes lire des extraits de leurs propres ouvrages.
Alors, est-ce que les écrivains lisent aussi bien que ça leur livres? Parce que les poètes lisent très mal leur poésie. Il y a des fameux enregistrements dont il y a un enregistrement qui est très connu, qu'on peut trouver sur le net, c'est Apollinaire qui lit « Sous le pont Mirabeau coule la Seine » et on a vraiment envie de passer à autre chose.
C'est très variable. Il y a des gens qui arrivent parfaitement bien à lire leur propre prose parce qu'ils sont habités, ils connaissent leur rythme. Et il y en a d'autres, ben non, c'est une catastrophe. Et souvent, ils viennent accompagnés d'un comédien.
Ah voilà,
ou une
parce qu'ils le savent. Parce que c'est difficile de dire à un écrivain, écoute, ton livre est bien, mais il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui lit.
Non, ils viennent accompagner, ou ils anticipent un peu, ou alors ils me demandent à moi. Voilà.
Alors, qu'est-ce qui se passe avec Prince? Quel est ce goût de Prince que vous avez, Richard, et qu'est-ce que vous lancez?
On a lancé un concours de nouvelles. Parce qu'en fait, il y a une histoire peut-être que vous ne connaissez pas. On ne sait pas très bien quels sont les derniers jours de la mort de Prince. Il y a un grand flou autour des toutes dernières journées. Et il y a une histoire qui a été révélée peu après son décès, qui me semble totalement romanesque. Il aurait travaillé pendant 154 heures d'affilée sans dormir pour composer son propre requiem. Et il y avait un témoin avec lui dans sa magnifique demeure château, studio d'enregistrement gigantesque de Paisley Park à Minneapolis, qui était son beau-frère et qui a affirmé ça. Pendant 154 heures, il a composé, et une fois qu'il avait terminé ses enregistrements, il a couru remettre ses enregistrements dans ce qu'il appelle le vault, un coffre-fort de son studio. Ça a été enfermé, Et pour aller enfin se coucher, puisqu'il avait fait son requiem, et il est mort dans l'ascenseur qu'il a amené vers sa chambre, en gros.
Alors, pour réussir une vie légendaire dans le monde du rock, il faut aussi réussir une mort mystérieuse.
Absolument.
On voit Jim Morrison, on ne sait pas bien, qui était traîné dans une boîte de nuit à Paris, on ne sait pas exactement, une overdose ou quoi. Il y a toujours quelques minutes, on ne sait pas. Michael Jackson, même quand il n'y a pas de mystère, on en crée après. On dit forcément, le médecin a menti, ce n'est pas du tout ça. Et sur Prince, on pense que c'est ça, c'est d'épuisement.
Ce qui s'est passé, c'est que peu de temps après, le beau-frère en question, qui était l'unique témoin de ce marathon de composition, s'est lui-même démenti. Il a dit non, tout ce que j'ai dit était faux. C'est très bizarre. Alors qu'il laisse un peu le spectre, le souffre de cet épilogue hallucinant. Donc la proposition, c'est pour les auditeurs de Radio Nova d'imaginer en moins de 1999 mots la dernière nuit de Prince. Et s'ils veulent participer, eh bien, il suffit d'envoyer leur texte, leur nouvelle à contact@novaplanet.com, contact@novaplanet.com, contact sans S, comme notre site internet. Et les meilleurs textes seront lus à l'antenne quelques jours avant la date anniversaire.
J'ai l'impression que vous êtes très précis sur les mots.
Oui.
Est-ce que ça peut aller vraiment de onomatopée? Est-ce que ça peut aller de l'interjection jusqu'à anticonstitutionnellement? On peut aller de A au A et tout sera traité à égalité?
Tout sera traité à égalité. Ce qu'il y a de bien avec Prince, c'est que si on fait science-fiction assumée, si on va dans le drame, si on va dans l'hommage musical crépusculaire, et pourquoi pas la comédie, avec qui était-il? Où était-il? On peut tout imaginer avec lui, puisqu'on ne sait rien quasiment.
Voilà, belle intervention.
On peut tout imaginer. 1999 par rapport à son album, par rapport aussi.
C'est exactement.
Bien sûr.
Let's go crazy, si j'ose dire.
Est-ce qu'on peut remplacer dans la nouvelle le nom Prince par le Love Symbols, qui enlèverait un mot à chaque fois et permettrait d'économiser? Vous connaissez le Love Symbols sera comptabilisé comme un mot?
Comme un double mot. Du coup, Love et Symbol.
Non, parce que si on l'écrit avec le symbole lui-même...
Ah oui, d'accord, si vous l'avez, bien sûr. Ah bah oui, ça fait un mot, tout doux. Attention, vous n'allez pas la prendre la vie non plus.
C'est un dessin, là,
oui, c'est un dessin. Bah, 999 dessins.
Donc il faut envoyer ça à...
contact@novaplanet.com.
C'est qui, contact?
Contact, bah, c'est les gens de l'accueil qui vont réceptionner tous ces...
Jusqu'au
17 avril, avant lundi prochain, absolument midi.
Et on peut faire des BD,
on gagne des trucs.
On gagnera très probablement, je m'avance un peu, mais on est partenaire, Radio Nova est partenaire de la sortie d'une biographie qui s'appelle Le Signe Noir, signée Alexis Tain aux éditions de La Découverte. Je pense qu'on pourra donner des exemplaires de cette biographie très intéressante.
Oui, mais Nova est aussi partenaire, je crois, des hôtels Formule 1. Et le risque, c'est de gagner une nuit dans un Formule 1. Et ça, qui souhaite ça en ce moment?
Sauf si pendant cette nuit dans un hôtel Formule 1, on peut peut-être composer pendant 154 heures son propre requiem avec un atelier, un synthétiseur. Et ça peut valoir le coup, composer votre propre fin.
Richard Guettet, je vous remercie. Quels sont les plus mauvais jeux de mots auxquels vous ayez eu droit dans votre vie avec votre nom de famille Guettet?
Je pense qu'on peut comparer. On va aller vers un certain DJ qui cartonne un peu partout dans le monde et qui a de longs cheveux blonds lui aussi. Et qui est ce qui m'a permis de rentrer à l'œil dans des hôtels de luxe. Une proximité. Vous voyez
Guetta.
Voilà. Et ça, parfois, je disais où est ma chambre? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Et rapidement, moi qui n'avais rien réservé, ça me permettait d'être tranquille dans des villes balnéaires.
Et vous aussi, puisque Catman Kelly, quand on le dit très vite, ça fait François Fillon. Ce qui vous permet de ne pas payer dans certains hôtels. Merci.
Je vous en prie, d'avoir des costumes
à votre présence. Avec un très gros béco. Et on écoute ce soir le Novak Book.
Belle initiative en tout cas.
Salut,
je vais écrire moi.
Merci.
7h, 9h, plus près de toi. Plus près de toi. Édouard Baird.
Édouard a rejoint le grand café Nova pour le live.
Édouard est dans mon dos.
Édouard est dans le dos de Rudy Aboab. Salut Rudy.
Salut Armel. Ça va Édouard?
Voilà, c'est commencé, Edouard. N'hésitez pas à vous approcher d'un micro, à prendre l'antenne et venir nous présenter le live.
Alors, racontez un petit peu, là, c'est magnifique.
Des you-you cubains qu'on vient d'entendre d'Edouard. C'est magnifique, en effet, c'est Daimé Arosena.
Il y a un combat derrière
entre Erwin, c'est Erwin, le stage manager de Daimé Arosena.
Donc.
Et il a pas envie de prendre un micro. Catch avec Erwin. Non, il a pas envie de prendre un micro. Ce matin, c'est son micro. Le hasard du calendrier fait qu'il y a une logique certaine entre Ife, le live qui a clôturé la semaine dernière du côté de Porto Rico, et ce début de semaine qui nous emmène au cœur de Cuba avec cet artiste hors pair qui représente le futur musical de l'île. J'ai nommé Daimé Arosena. Daimé Arosena est une enfant de la Havane, et plus précisément du quartier de Diez de Octobre où elle vécut.
Tout est vrai? De verdad? Es la verdad?
Diez de Octobre.
Non.
Non, mais.
Elles s'en foutent, elles s'en foutent. Attends.
I think it's quite right, yeah.
Quartier où elle a vécu toute son enfance, à 21, dans une maison à deux pièces, au son constant de la rumba de la rue, du jazz de son papa et des cérémonies yoruba de sa grand-mère. À l'heure où Cuba s'ouvre plus que jamais au reste du monde, Daimé Arocena, la protégée de Gilles Peterson, dédie ce deuxième album, Cubafonia, à son île natale, à son identité, à la diversité, à la richesse de la musique cubaine. Mais elle ne se cantonne pas à le décrire, elle réinvente au contraire une nouvelle musique cubaine contemporaine faite d'un mix de rumba, de jazz et de soul. Et puis il y a cette voix qui est puissante, forte, qui marque, qui sourit, cette voix qui va partout et qui déjà à l'époque, lorsqu'elle était enfant, rythmait les journées de ses voisins. Daimé Arocena.
Daimé Arocena, est-ce que does it sounds like good what he's saying about you?
He sounds like an MC.
Yeah, oui, c'est un MC.
Elle est avec
that's
nous.
That's what we are missing.
But at some time, recognize some words like Yoruba, La Havana. Vous reconnaissez des mots de.
I only say good things.
That's beautiful. I can feel that.
Cool. He sings what always he says. He is sincere. Je sais pas si ça se dit. Ce que
c'est vrai, ouais. C'est vrai. Elle est avec nous ce matin avec son groupe, avec accompagnée de Jorge Luis Lagarza, Raphaël Aldama,
qui est
Jorge Herrera.
Qui est Jorge? Levez la main. Jorge là au clavier.
Raphaël.
Raphaël, donde? Ah, hola Raphaël, que tal?
Et Rouli qui est juste là.
Rouli qui a une moustache muy superbe. Une des plus belles moustaches que j'ai vues de ma vie dans l'univers musical.
Ils sont ce soir en concert au New Morning et avec nous ce matin, ils vont nous interpréter un premier morceau qui s'appelle Valentine. Elle est habillée
tout en blanc. So this morning radio, this evening New Morning and this afternoon sleeping, va-t-elle dormir entre les deux?
Yeah.
Oh, oui.
Yeah,
elle est un peu fatiguée. C'est très
non, cool. Elle n'est pas du tout en forme.
Elle est en grande forme. C'est vrai.
Thank you very much for being there.
Let's go, let the music.
Muchas gracias.
Okay. So, this song called Valentine, I mean, we are going to play this because we are in Paris. And Paris is like the city of love. So I was wondering, what should I play today? It should be like a lovely song. It has to be Valentine. Sorry about my crazy Cuban French language stuff.
No, perfect.
I'm just trying to follow my sense. I like to play with languages, but I don't know to speak French. So, forgive me for that.
Entiendo.
Okay. Nice.
International.
Valentine is a changuizo. You have to get it. You have to feel it. You have to dance.
Allez,
with the bass line.
To dance, everybody stand.
They are gonna dance.
Stand. Tout le monde debout ici.
Oh, that's
dans
nice.
Le studio Nova.
On,
allez, on envoie
yeah,
l'énergie.
That's really good.
Avec Ed Petchelif.
So you have to dance like with the bass line.
Tout le monde se lève.
1, 2, 3. 1, 2, 3.
C'est parti, tout le monde commence à s'installer pour danser. Dans
come
une fête autant chez vous, dans votre voiture. Si vous n'avez pas de voiture décapotable, ne vous levez pas. Vous risqueriez de heurter le toit.
Alors, j'avais très envie de la voir, donc j'ai dit en concert au New Morning ce soir, ce qui est absolument erroné. Elle sera en concert au New Morning ce jeudi.
Daimé Arocena, jeudi. Muchas gracias, merci. Merci Daimé, c'est fini pour nous. Jusqu'à demain, au plaisir de vous retrouver demain matin. Voici Étrange Glorieuse. Salut.
Édouard Baer.
7h-9h.
Plus près de toi. Point final.